Bonjour à tous. Alors une fois, me voici parmi vous, avec la même joie d'être avec vous. Est-ce que ça marche? Vous entendez là? Pas trop. Il faut parler plus fort. Ouais. Ouais. Parfait, oui.
Ça devrait.
Parfait, oui. Bien, eh bien, commençons tout de suite. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour pouvoir paraître devant toi, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avancer? Que pourrions-nous faire si tu n'étais pas là pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous donner toutes les forces dont nous avons besoin? Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton amour, de ta grâce, de ta lumière. Nous comptons sur ta présence. Amen. Les quelques versets que je vais lire appartiennent à cet ensemble qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Sermon qui commence justement par un verset très facile à comprendre, que je lis. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Voilà. Et du coup, on a appelé ça le Sermon sur la montagne. Jusqu'à maintenant, c'est facile de suivre. Un sermon sur la montagne qui commence par ce qu'on appelle les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, heureux les artisans de la paix, etc. Des béatitudes qui ont quelque chose de surprenant parce qu'elles déclarent heureux ceux qui, justement, ont fait des choix pas vraiment à leur avantage. Par exemple, vouloir être doux face à ceux qui sont violents, avoir soif de justice dans un monde où la justice n'est pas toujours la priorité, aux yeux de beaucoup, c'est pas un très bon calcul. C'est donc à ses disciples que Jésus s'adresse. Ils peuvent connaître des difficultés liées à leur choix. Ils sont déclarés heureux, et dans l'avenir, ils seront soulagés, délivrés même et même récompensés pour ceux qui sont persécutés. Mais pas seulement, puisque dans les versets qui suivent, c'est ce que je vais lire, Jésus leur dit autre chose encore. Et me voici maintenant dans notre lecture, Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un porte-lampe, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le sel et la lumière. Depuis très longtemps, le sel est connu pour ses propriétés d'agent conservateur, d'ailleurs dans l'Ancien Testament, il figure parmi les choses qu'il fallait inclure dans le rituel, comme un signe de ce qui doit durer. Et on voit ça notamment au moment de contracter des alliances, puisque par principe, une alliance, c'est fait pour durer. Alors, sous ce rapport-là, être le sel de la terre, eh bien, c'est avoir un rôle important pour que la création puisse subsister ou pour que la vie sur terre soit encore supportable entre les humains. Il y a mille et une manières, je pense, d'être sel de la terre. Par exemple, ne pas faire, en tout cas, ou ne pas réagir comme tout le monde, tenir un autre discours que les discours habituels, hein, des choses qui peuvent déranger, mais qui peuvent aussi questionner utilement. Et parfois, eh bien, il ne faut pas grand-chose. Alors, certes, le message chrétien n'est pas forcément prisé de tous. Le choix de vie des chrétiens ou leur discours peuvent ne pas plaire à certains. Le goût piquant du sel peut incommoder, mais il est utile. Dans la conversation, sur certains sujets, eh bien, il vaut mieux du sel que du sucre. Vous connaissez ce vers, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est pas toujours du sucre qu'il faut. Ceci dit, lorsque l'apôtre Paul demande aux Colossiens que leurs paroles soient assaisonnées de sel, il précise en parlant de l'art de répondre à chacun comme il le faut. Alors, peut-être piquante, mais pour autant pas blessante. C'est un bon dosage qui enrichit le goût. Je vais vous parler un peu de la lumière aussi. Une image qui est assez facile à comprendre. La lumière permet à ceux qui sont dans l'obscurité de voir la bonne direction. Alors, comme une lampe bien placée, eh bien les disciples peuvent éclairer les autres. Par leurs paroles, mais aussi par leurs actes, par leur exemple. Et comme le sel, la lumière peut déranger. C'est-à-dire qu'elle peut révéler aussi des choses qu'on n'a pas envie de voir. Alors, tout simplement, j'ai l'impression que le sel et la lumière décrivent une même réalité, qui est celle du disciple. Le sel peut assaisonner la parole, comme le dit Paul, tout comme il peut, par des actes, contribuer à la préservation de la terre. Et de son côté, la lumière, qui est donnée par la parole, dévoile le vrai. Mais aussi, elle peut émaner d'une conduite exemplaire, d'un acte d'amour. Il nous faut parler des disciples. Des disciples à qui Jésus dit « Vous êtes ». Verbe « être ». Verbe de l'identité, s'il en est. Alors, est-ce que c'est vraiment une question d'identité? Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, c'est pour dire que le disciple a quelque chose que les autres n'ont pas. Étant le sel de la terre, le disciple est autre chose qui n'est pas du monde. Étant la lumière du monde, il est distinct du monde. Et pourtant, même s'il y a une distinction, cela ne justifie pas une séparation. Vous êtes autre chose que le monde. Bien sûr. Mais ce que vous êtes, c'est pour lui. Vous n'êtes pas comme les autres, mais vous êtes pour les autres. Et Jésus d'ajouter, combien peut être inutile une lampe sous un boisseau ou du sel sans saveur. Du temps de Jésus, ce qu'on appelait le sel ne contenait pas forcément que du sodium. Et selon la proportion qu'il en contenait, il avait plus ou moins de saveur. De même qu'un tel mélange peut être plus ou moins riche en sel, selon les cas, eh bien les disciples peuvent encore avoir perdu l'acuité de leur message, peuvent voir s'émousser leur amour. De même que la lumière d'un avis pertinent ou d'un exemple, elle peut se trouver atténuée par le boisseau de l'égoïsme, par exemple. Alors que faire ? Que faire ? Notre nature de disciple fait de nous donc des êtres à part. Mais comme je disais, qui ne doivent surtout pas rester à part. Comme le sel qui ne donne de goût qu'une fois mélangé, qu'une fois intégré dans la pâte, nous vivons aux côtés des autres, avec notre nature, nos réactions, nos actes, nos paroles. Comme la lumière qui n'est utile que si elle est bien placée, eh bien, nous sommes exposés au regard des autres. Et pour répondre plus précisément à la question « Que faire ?», je dirais que pour Jésus, la priorité n'est pas de faire. La priorité n'est pas de faire. J'en reviens à cette déclaration décidément très lourde de sens. Vous êtes et non pas vous devez devenir. Que vous le vouliez ou non, que vous fassiez ou vous disiez quelque chose ou non, si vous êtes disciple du Christ, vous êtes le sel et la lumière. Et ce que vous êtes vraiment va parler en bien ou peut-être en moins bien. Peut-être plus que vos propres paroles. On connaît bien cette maxime. Ce que tu es crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis. L'interpellation. D'où l'intérêt pour nous de prêter la plus grande attention à ce que nous sommes. Notre témoignage sera bon, non pas grâce à la quantité de nos paroles ou de nos actes. D'ailleurs, la lumière doit éclairer et pas éblouir. Notre témoignage sera bon grâce à la qualité de ce que nous sommes vraiment. D'où la question, mais qu'est-ce que nous sommes vraiment ? Bien sûr, nous, chrétiens, nous accomplissons de belles œuvres. L'Évangile nous invite à agir. Mais pour accomplir notre vocation, encore faut-il qu'elles orientent le regard vers Dieu, le Père, pas vers nous, pas vers notre réputation, notre autosatisfaction. Autrement dit, qu'elles soient l'émanation de ce que sont les disciples de Christ. Alors, précision, mon but n'est pas de nous culpabiliser. Nous sommes en chemin, nous ne sommes pas parfaits, notre lumière n'est pas éclatante, n'éclaire pas toujours. Notre sel n'est pas du sodium à l'état pur. Mais la question vaut le coup d'être posée. Alors, pour conclure, je dirais tout simplement, soyons ce que nous sommes. Le monde a besoin de l'Église, de sa prière, de sa prédication, de sa réflexion, de sa culture, de son amour. Et nous sommes dans le monde, il ne faut pas avoir peur de participer aux activités dites profanes de notre société, puisque notre société a besoin d'un ferment, un ferment qui peut faire défaut cruellement quand les chrétiens ne sont pas là. La grâce de Dieu pour ce monde qu'il n'a pas abandonné à lui-même, elle se manifeste de plusieurs manières. Dieu agit encore aujourd'hui. On ne sait pas toujours comment, mais il agit aussi par la présence de ses enfants, là où ils sont, dans la situation de chacun. On ne peut pas se plaindre de la corruption qui touche certains milieux professionnels, culturels ou autres, si on oublie les chrétiens qui sont impliqués dans ces activités. Sachant qu'il ne faut pas une grande quantité de sel pour donner du goût. Dans notre lecture, Jésus s'adressait à des disciples qui étaient en petit nombre et qui étaient exposés aux persécutions même. Ça, c'est juste avant notre lecture. On a commencé au verset 13, les versets 11 et 12, la fin des Béatitudes, dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal et qu'on vous persécutera. » Eh bien, juste après, Jésus dit « Vous êtes le sel, vous êtes la lumière. » C'est les mêmes. Un petit nombre, un petit groupe. L'Église n'a pas besoin d'être majoritaire ou riche pour donner un avis sur un problème. Justement, quand les Églises sont majoritaires, c'est des choses, ça ne donne pas toujours des choses très positives. L'histoire l'a bien montré. Alors je crois qu'il y a là un encouragement quand même à ceux qui ont choisi d'être pauvres en esprit, d'être affamés de justice, d'être artisans de paix, d'être compatissants. C'est des béatitudes, tout ça. Il leur est parlé de récompense pour l'avenir, mais Jésus leur rappelle aussi que dans leur présent, parfois difficile, ils sont utiles pour Dieu, ils servent à quelque chose. Que leurs éventuelles difficultés ne sont pas là pour rien. Nous sommes importants pour Dieu dans chacune de nos situations, faciles ou difficiles. Nous sommes la lumière, mais c'est par notre lien à celui qui a dit « Je suis la lumière », qui lui est la véritable lumière. Nous sommes le sel par notre lien à celui qui donne saveur et sens à la vie. Eh bien, c'est de la qualité de ce lien que vont découler nos paroles, nos actions ou nos réactions. Jésus disait bien à ses disciples, « sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, que pourrions-nous apporter ?» Il serait vain de vouloir apporter quoi que ce soit au monde sans sa présence à nos côtés. Alors, oui, rien ne peut remplacer l'état de notre relation avec lui. Rien ne remplacera notre cheminement avec lui, notre regard sur nous-mêmes, autrement dit, notre conversion permanente. Rien ne remplacera notre attachement au Seigneur. Justement, ce que les hommes voient, éclairé par les belles œuvres, ça n'a pas pour but de nous faire valoir, mais pour but que la gloire en revienne à notre Père qui est dans les cieux. Et si nous en sommes proches, cette lumière pourra paraître. Alors, si l'arbre est bon, le fruit ne peut être que bon. C'est un encouragement, j'espère. Que le Seigneur soit avec chacun de nous. Amen. Je vous invite à quelques instants de recueillement. Seigneur, tu nous rappelles que nous avons...